Quel joyeux bruit, quel joyeux mouvement. On est venu pour Dieu, bien sûr, mais on est venu aussi pour les uns et pour les autres. Ça nous fait tellement bien d'être dans ce lieu, dimanche après dimanche, pour rencontrer le Seigneur et pour rencontrer les frères et les sœurs. Nous venons de vivre les uns et les autres ces dernières semaines des moments difficiles, des moments durs, des temps d'épreuve. Et lorsque je pensais à cette matinée, il me vient la pensée de vous parler du deuil. Pas plus tard que cette semaine, nous avons enterré notre frère André Sabel. Nous avons accompagné son épouse et sa famille. Et je vous remercie vraiment d'avoir été si nombreux pour participer, encourager, soutenir et consoler nos frères et sœurs qui passent par le moment, ce moment de deuil. Et en préparant ce temps, il me semblait important de pouvoir partager avec vous quelques aspects du deuil. Comment face au deuil? Et je remercie l'équipe de Louange d'avoir si merveilleusement introduit ce moment avec le dimanche, je suis sûr, ne se ressemble pas. Il y a des moments festifs, des moments où on est heureux, on exprime vraiment notre joie. Et puis, il y a des moments où on se pose vraiment ensemble en tant que communauté devant le Seigneur et où il nous parle. Tantôt, tantôt, vraiment un peu plus, mais parfois, il vient comme un murmure doux, léger, pour apaiser les cœurs, pour consoler, pour encourager. Je crois que cette matinée peut contribuer à apaiser, à consoler, à renouveler et à renforcer les uns comme les autres. Alors, nous saluons tous nos amis qui nous regardent sur Facebook depuis quelques temps, on est même en direct, en live. Nous saluons tous nos amis qui nous écoutent et qui participent à ce culte via Facebook ou alors en différé par Internet. Et nous les bénissons. Est-ce qu'on peut leur dire qu'on les aime et qu'on les bénit et qu'on pense à eux? Oui. Et c'est intéressant de voir que de ce lieu, on est parmi les lieux pratiquement depuis l'avènement d'Internet. On peut bénir le monde entier, en particulier toute la francophonie. Et régulièrement, j'ai des appels, j'ai des conversations avec des amis francophones de l'autre bout du monde qui me disent « On regarde vos cultes, on participe, on est tout cœur avec vous. » Donc, on les bénit de tout notre cœur. À un degré ou à un autre, on est tous en deuil de quelque chose ou de quelqu'un. En réalité, la vie est une succession de deuil. Quand les enfants grandissent, quitte la maison, c'est un deuil. On parle du syndrome du nid vide. Je parle sous le contrôle des experts, en relation d'aide, en psy, etc. Je n'en suis pas là et je ne veux pas me prendre parce que je ne suis pas. Je vais aborder la question ce matin d'un point de vue pastoral et théologique et biblique. Le mariage peut être un deuil, le deuil de sa liberté. Oui. Un enfant qui naît peut provoquer un deuil de votre vie d'adulte indépendant, le deuil de votre sommeil. La retraite, c'est un deuil, le deuil de ta vie professionnelle. Et vous connaissez cette expression vers son deuil. Le deuil de sa jeunesse, quand on vieillit. Le deuil de sa santé, quand on est malade, quand on a une maladie chronique ou quand on est dans une situation de handicap. Le deuil de la maternité ou de la paternité, quand on est célibataire et qu'on avance en âge ou en cas de stérilité. Le deuil des rêves qu'on n'a pas pu ou qu'on ne pourra jamais réaliser. Le deuil d'un ministère. Quand on voudrait servir Dieu de telle manière, alors qu'il nous attend à l'heure. Le deuil d'un animal de compagnie, le deuil d'un endroit, le deuil d'une maison. Un déménagement, c'est un deuil. Et dans l'échelle du stress, la perte de quelqu'un vient en premier, et puis tout de suite après, il y a le déménagement. C'est une souffrance, c'est une douleur. Alors la vie, c'est infini. Mais d'une manière générale, le deuil, c'est pleurer quelqu'un ou quelque chose qu'on a perdu ou que l'on n'aura jamais. Le deuil est une réaction et un sentiment de tristesse éprouvé à la suite d'une perte, d'une rupture ou de la mort. Le deuil est une souffrance. D'ailleurs, le mot latin pour deuil, c'est dolere, souffrance, douleur. Mais le deuil, c'est aussi un cheminement. C'est un processus nécessaire pour être restauré. Alors, quand nous sommes confrontés au décès d'un être cher, et la question qui s'assise ce matin, comment surmonter l'épreuve? Comment faire face au deuil? Quel est le cheminement qui pourra me conduire vers la restauration? Pour ce faire, on va lire un texte biblique et une lettre qui s'adressait notamment à des gens en souffrance. C'est la lettre de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens. La lettre a été écrite en 51 après Jésus-Christ à une jeune église qui est fondée justement par l'apôtre Paul. Elle s'adresse à des hommes et des femmes qui souffrent, qui ont perdu des êtres chers. La persécution règne à ce moment-là, l'Église est malmenée, et dans ce flot de persécution, il y a un certain nombre d'hommes et de femmes qui décèdent, et l'Église est en souffrance. Et elle s'interroge sur le retour de Jésus, sur l'avenir et sur la mort. D'ailleurs, le nom de Thessalonique, juste entre parenthèses, signifie victoire de ceux qui le font. Et les chrétiens de Thessalonique vivaient dans un certain raisonnement et des choses fausses. Et l'apôtre Paul va rétablir la vérité en leur adressant cette lettre. Et il leur dit, donc Thessalonique qui veut dire victoire de ce qui est faux, avec une racine du mot qui veut dire ignorance, l'apôtre Paul dit, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13, nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Et poursuit avec le verset 14. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un accord. Le son de la trompette de Dieu descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les ailes et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous ou consolez-vous les uns les autres par ces. Au début des années 80, un Américain qui s'appelle John James a perdu son petit garçon. Et dans cette épreuve, il a essayé de trouver de l'aide. Et il n'a pas trouvé. Il a cherché à analyser ce qui se passait en lui, ses états d'âme et ce qu'il était en train de vivre, ce qu'il traversait était profondément douloureux. Et il a surmonté tant bien que mal. Cette période de deuil. On est arrivé à écrire un livre qu'il a intitulé Grieve Recovery, c'est-à-dire se remettre d'une douleur. Et c'est devenu un best-seller aux États-Unis. C'est en quelque sorte un manuel, un guide pour aider les gens à se remettre d'un deuil. Et ce qui est intéressant, c'est que le livre commence. Une parabole. C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Johnny. Et cette parabole, cette histoire, reflète assez bien la pensée générale dans notre société, des clichés, vous allez tout de suite les reconnaître, qui sont véhiculés, mais qui sont faux. Et beaucoup de gens basent leur des mensonges et ceux de la fausseté. Alors, c'est un peu comme un miroir de notre société, la pensée populaire. Johnny a 5 ans quand son chien meurt. Il a le cœur déchiré. Il va vers son père pour trouver la consolation. Son père lui dit ceci. Il lui dit ceci. C'est pas grave, on va t'en acheter. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce petit garçon? Essayez de suivre un peu le film. Le premier message que capte ce petit garçon de 5 ans, c'est celui-là. Enfouis tes émotions. Minimise ta souffrance. Refoule ta douleur. Mise la réalité de la tristesse. C'est pas grave, on va t'en acheter un autre. L'histoire continue. Plus tard, Johnny tombe amoureux d'une fille. Tout est merveilleux. Il est sur son nuage. Il a des papillons devant les yeux. Mais la relation ne dure pas. Et c'est le premier cadran d'amour, la première rupture amoureuse. Il a le cœur en miettes. Il est effondré. Il va trouver sa maman. De la consolation. Et sa maman lui dit, t'inquiète, une de perdue, 10 de retrouvée, vous connaissez l'histoire, 10 de retrouvée. Terrible. C'est pas grave, une de perdue et 10 de retrouvée. Deuxième message, remplace ce que tu as perdu au plus vite par quelqu'un d'autre ou par quelque chose d'autre. Tu oublieras ce que tu avais auparavant. L'histoire se poursuit, et un peu plus tard, son grand-père décède. Le grand-père maternel, il l'aimait beaucoup, il passait beaucoup de temps avec lui, et un jour, il est en classe, il est à l'école, et il reçoit un petit bout de papier avec la mauvaise nouvelle, et il apprend donc en classe que son grand-père est décédé. Il rentre à la maison, il est en larmes. Il avait sa maman. Et avant de rejoindre sa maman, il rejoint son père à la cuisine et son père lui dit, laisse maman tranquille, elle a besoin d'être seule. Troisième message, c'est quand il est mal, isole tout. Isole tout. Souffre tout ça. Avec le temps, ça s'arrange. Et Johnny grandit, mais de temps en temps, sa souffrance refait surface parce qu'il n'a pas pu l'exprimer. Vous savez que quand on n'arrive pas à l'exprimer, ça reste là au fond de nous-mêmes et d'une manière ou d'une autre, un jour ou l'autre, cela refait surface. Alors il vit avec ce chagrin qu'il n'a pas pu évacuer. Et puis un jour, il est avec un camarade et au cours d'une conversation, il se sent particulièrement à l'aise avec lui. Et il s'est hasardé à partager ses émotions. Il s'ouvre et il fait part à son camarade de ses regrets de n'avoir jamais pu dire à son grand-père qu'il l'aimait. Et son camarade, en train de devenir un peu émotionnel, s'est évité la discussion. Et puis il dit, tu sais, t'inquiète pas, on est tous pareils, pour vivre avec, pour faire avec. Quatrième message pour lui, c'est celui-ci. Résigne-toi à vivre avec ta peine et tes regrets. En fait, dresse un mur entre toi et les autres pour te protéger et pour ne plus jamais souffrir. Mes amis, c'est ce que beaucoup d'entre nous avons vécu, un degré ou un autre, c'est ce qui se vit dans notre société. Ce qui se passe un petit peu autour de nous. Premier message, refoule tes émotions. Lis ta souffrance. Deuxième message, remplace au plus vite ce que tu as perdu par quelqu'un d'autre. Comble le vide à tout prix. Troisième message, isole-toi. Convainc-toi qu'avec le temps, tout s'arrangera. Et quatrième message, résigne-toi à vivre avec tes peines et tes regrets. Protège-toi pour ne plus jamais souffrir. les trois prisonniers, c'est l'histoire de notre monde, de notre société. Ce sont, au fond, tous les amis bien intentionnés qui cherchent ou qui proposent, à travers de clichés, à travers de schémas, de recettes, des slogans, des réponses toutes faites, qui n'apportent pas vraiment de guérison et de réponse et de résolution. Alors, bonne nouvelle ce matin, c'est que la Bible nous propose une autre approche, une autre perspective. Et ce que j'aime dans la Bible, c'est qu'elle est très franche. Elle est vraiment très franche à propos des moments difficiles que nous pouvons traverser. La Bible ne nie pas la souffrance. Elle n'évite pas des choses difficiles. Elle en parle. Elle en parle avec vérité. Et elle nous propose une autre manière de vivre. Ne vous laissez pas enfermer par des clichés, par des recettes qui finissent par vous empoisonner le reste de votre vie. Dieu sait que la vie est parfois compliquée. Alors, ce message qu'il a reçu, je lis, refoule tes émotions, nie ta souffrance, entraîne tes sentiments. Bien sûr, c'est absolument faux. C'est faux. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas chrétien, ce n'est pas juste. On dira parfois, une fille qui pleure, c'est normal. Mais un gars qui pleure, un homme, ça ne pleure pas. Oh, mais je vais vous dire quelque chose. Les filles, écoutez bien. Méfiez-vous des garçons que vous n'avez jamais vus pleurer. Enregistrez ça. Méfiez-vous des garçons que vous n'avez jamais vus pleurer. Surtout si vous êtes en cheminement, vous avez commencé une relation, etc. C'est important. Les garçons puissent vous montrer le fond de son cœur et aussi ses émotions. Un garçon, c'est un peu plus rare. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Ici, l'apôtre Paul fait allusion à une émotion, la tristesse. Dans quelques semaines, nous allons en parler avec le monde de on a commencé une petite série sur les émotions et qu'elle est particulièrement bien indiquée pour nous parler de notre. Et dans le milieu chrétien, on ne parle pas beaucoup des émotions, donc il faut en parler. Hein? Par exemple, on parle du pardon. Il faut pardonner. Bon, bien sûr, il faut pardonner, mais qu'est-ce que je fais après avec ce qui se passe en moi en termes d'émotions? Comment est-ce que je gère tout ça? Je me réjouis de tous ces messages qui vont apporter aussi des éléments de réponse pour nous aider à grandir dans une vie de disciple de Jésus-Christ. Donc il dit, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. La perspective chrétienne, la perspective biblique, ce n'est pas l'absence de tristesse. La tristesse, oui, mais accompagnée d'une espérance. Et c'est ce qui fait la différence. Chapitre 4 des Thessaloniciens, verset 14, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Alors la Bible nous invite maintenant à regarder à Jésus-Christ, à regarder dans lui. Jésus, c'est l'homme le plus équilibré de tout le temps. L'homme le plus équilibré de tout le temps. Jésus a connu toute la palette des émotions dans son humanité. Il se réjouit. À un moment donné, on nous dit qu'il a tressailli de joie. Il s'est mis en colère au moment où il a chassé les vendeurs du temple. Il a été attristé dans le jardin de Gethsémané. Il a même connu l'angoisse. Devant des personnes malades, on nous dit qu'il a été ému de compassion. Et le mot ici en hébreu et en grec est très très fort. On parle en hébreu de tantale, de miséricorde, c'est très imagé. Et puis à la mort de son ami Lazare, le verset le plus court de la Bible, il dit Jésus pleure. Donc les hommes, les gars, on a un modèle, Jésus est notre modèle, on est d'accord. Oui. C'est très nombreux de pouvoir appeler. Ce qu'il faut qu'on sorte, ces émotions, cette souffrance, cette douleur, il y a plusieurs manières de s'exprimer. Il y a le verbal, on peut parler. Et quand ça va plus, on peut même chanter. Il faut attendre à chanter des choses fortes. Je vais demander à l'équipe de remonter tout à l'heure avec un message pour qu'on puisse se chanter un peu plus loin. Et en tant que chrétien, on a une force dans la personne, dans l'œuvre, dans l'accompagnement de Jésus-Christ. Donc Jésus a exprimé ses sentiments, ses émotions, il est notre modèle. Exprime tes émotions, exprime ce que tu vis. Ce n'est pas un aveu de faiblesse. Du temps de Jésus, il y avait des fantaisies. Il est trop fort. Mais le fait de pouvoir exprimer ses émotions, c'est une preuve de bonne santé émotionnelle, une preuve d'équilibre aussi mental et psychologique. Paul dit, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance. Beaucoup d'ignorance concernant les émotions dans le monde chrétien. Et ne prenez pas, mes amis, vers la guérison consiste à exprimer ce que vous voulez. Et Paul termine son partie de passage ici, au chapitre 4, verset 18, en disant « Consolez-vous, encouragez-vous les uns les autres par ces paroles. » Les uns les autres. À 58 reprises, le Nouveau Testament parle des uns et des autres. C'est une relation. Par exemple, « Encouragez-vous les uns les autres. » »« Abortissez-vous les uns les autres. »« Supportez-vous les uns les autres. »« Pardonnez-vous les uns les autres. »« Édifiez-vous les uns les autres. » C'est impossible de mettre en pratique ces textes si on ne s'exprime pas les uns vis-à-vis des autres. Le chanteur canadien Richard Toupin, on avait déjà eu l'occasion de recevoir des signes, chante une chanson dans laquelle il dit « Quand on ne sait pas dire ce qui nous fait mal, on se condamne au pire à le garder. » Quand on ne sait pas dire ce qui nous fait mal, on se condamne au pire à le garder. Oui, nous sommes tristes, mais nous n'avons pas, nous ne sommes pas sans espérance. Jean 11, verset 25, Jésus dit moi, je suis la résurrection de la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Ce n'est pas une fumée que nous nous fabriquons de croire qu'il y a une vie après la mort et que nous serons pour toujours avec le Seigneur. Ce n'est pas un paradis artificiel que nous sommes. On est en train de se construire. C'est notre conviction profonde, c'est notre confiance véritable. Oui, il y a du chagrin chez les chrétiens, comme chez les non-chrétiens. Oui, il y a du chagrin, mais il y a un avenir. Oui, nous versons des larmes, mais nous avons une destinée. Oui, nous sommes affligés. Mais nous avons une espérance. Et c'est sur ça que nous voulons bâtir notre foi. Alors, bien sûr, il y a des étapes dans le deuil. Je ne rentre pas dans les détails. Il y a toujours quelquefois des batailles d'experts entre comment ça se passe exactement. Les uns disent qu'il y a trois étapes, les autres sept. Et je pense que j'en ai pris cinq, parce que je suis dans le registre du deuil. Mais c'est tellement utile de se batailler entre experts parce que nous ne pouvons pas faire entrer les gens dans des schémas. Vous voyez? Non, ce n'est pas possible parce que chacun d'entre nous, nous sommes particuliers et nous avons notre vécu, nous avons notre passé, nous avons notre tempérament, notre caractère, nous sommes tous particuliers. Mais d'une manière générale, les étapes du deuil sont celles-ci. D'abord, il y a un profond choc. C'est le seul qui nous tombe sur la tête. Même quand on s'est préparé au départ de quelqu'un. Le moment de l'expérience est quand même difficile. Oui, c'est un choc. Et puis, il y a le déni. C'est pas possible. C'est pas vrai. Et pourtant, c'est la réalité. Puis, deuxième étape, la colère. Le sentiment de colère face à la perte d'un être cher. Troisième étape, c'est la dépression. C'est une phase qui est caractérisée par une grande tristesse. Mais il peut y avoir aussi d'autres émotions, parce que nous sommes tous particuliers. puis une autre étape qui est l'acceptation. La tristesse est présente, mais celui qui est en deuil commence à réorganiser sa vie en fonction de son père. Quelqu'un dit un jour, même quand la blessure guérit, la cicatrice demeure. Et tous ceux qui sont vagues et doivent partir au ciel. Même quand la blessure guérit, la cicatrice demeure. Et puis la phase de reconstruction. Et si nous comprenons le rôle de l'Église, les uns et les autres, et nous voyons que l'Église est belle lorsqu'elle joue son rôle dans la reconstruction d'un homme, d'une soeur, d'une personne en deuil. Et la Bible dit nous pleurons avec ceux qui pleurent. Pleurons avec ceux qui pleurent. Et notre rôle, c'est de nous rapprocher les uns des autres pour nous porter mutuellement dans les temps de paix. C'est beau d'entendre le témoignage de Delphine. Nous avons eu notre cérémonie ce mercredi. Nous avons accompagné notre fille André, très belle, sa dernière demeure. Et Delphine est venue aussi. Elle est sortie me dit, c'est une membre de l'Assemblée. Je ne connais pas André, je ne connaissais pas, je ne connais pas la famille, mais je suis là parce que c'est mon église. Le message qu'on a adressé à Anthony, oh, c'est pas grave. Une de perdue, dix de retrouvée. C'est pas grave. Avec le temps, tu oublieras. Mes amis, avec le temps, les blessures peuvent se cicatriser. Mais si la colère, la vertu, si la révolte ne sont pas soignées, le temps n'arrangera rien. Au contraire, le temps seul ne change rien. Au contraire, il nous endurcit. Il va nous endurcir. L'intervention humaine, à elle seule, ne suffit pas. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour les amis, merci Seigneur pour l'Église. Elle a son rôle à jouer, je viens de le dire. Mais l'aide humaine à elle, toute seule, ne suffit pas. Et c'est là que l'apôtre Paul fait appel aussi à notre compréhension. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 5, aussi un texte qui nous laisse. Un texte qui nous laisse. Verset 5, lui nous dit, puisque notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. Au verset 6, vous-même vous êtes devenus nos imitateurs, et ceux du Seigneur en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés, avec la joie du Saint-Esprit. Ils ont toute la puissance du Saint-Esprit. Et on nous parle de la joie du Saint-Esprit. Au milieu de l'épreuve, au milieu de la douleur et au milieu de la souffrance, il est possible d'être accompagné par le Saint-Esprit, qui est, je vous le rappelle, le consolateur. Celui qui soutient, celui qui défend, celui qui nous accompagne, celui qui nous aide. Le Saint-Esprit, le plus rapide, celui qui se tient à nos côtés. On a l'habitude de dépendre le Saint-Esprit comme le défenseur, comme le consolateur, l'avocat. C'est ce qui veut dire le mot paraclétos. L'origine, c'est l'ordre des avocats. Mais il y a aussi le paraclétos. Et le paraclétos est utilisé chez les militaires, sur le champ de bataille. Lorsqu'un soldat est tombé, on criait fait venir les paraclétos. C'est une ambulance, en quelque sorte. Et les paraclétos venaient. Il relevait le soldat tombé, il l'aidait à reprendre la route, à marcher, et il l'emmenait en sécurité. Le paraclète, il vient le relever, il vient le porter, il vient le rétablir. Le Saint-Esprit est un esprit qui est là pour encourager, pour fortifier, et c'est intéressant de voir quel était le ministère de Jésus au travers du Saint-Esprit. Je termine avec ce texte. J'invite l'équipe à remonter sur l'estrade et on va chanter dans un instant ce chant Abrite-moi. On veut ensemble nous laisser porter par le Seigneur. Ésaïe chapitre 61, verset 1. Voilà ce que dit la parole à propos du ministère de Jésus. L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, est sur moi. Parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu, l'esprit de Dieu. Alors la Bible ne dit pas le deuil, c'est une réalité. Et Dieu a prévu une consolation pour chacun, une ville de joie au Dieu du deuil. Il s'agit d'un cheminement et d'un processus. Ésaïe 61, verset 11. Tout comme la terre fait sortir son germe, tout comme le jardin fait pousser ses semences, le Seigneur fait pousser la justice et la loi. La guérison ne se passera pas en son lieu, il m'en arrive, mais petit à petit, graduellement, jour après jour, dans l'accompagnement du Saint-Esprit, Dieu fait pousser sa semence. Et nous, nous l'arrosons. Les uns et les autres, par notre soutien, par notre prière, par notre amour, parce que la mort n'est pas une fin. Et l'amour est plus fort que la mort. L'amour de Jésus-Christ, il l'a montré sur la croix. L'amour a vaincu la mort. Et puis on dira encore, la mort a été engloutie dans la victoire de Jésus-Christ. Et mort une victoire. C'est Jésus qui a remporté la victoire de la mort. Il est le grand libérateur, le grand vainqueur, le grand restaurateur au travers du Saint-Esprit. Il nous accompagne. Il n'y a plus de restauration.